Et en mes paroles, Valtier, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guesnay m'appellent le chair, les Fimbi 500. Mais les deux sont corrects. Anyway, Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur We Hustle. C'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Hugo, take a seat, non? Purifie mon âme, puis je bois de l'eau bénite. L'Afrique est meurtrie, mais là, je peux pas dire la suite. Get it!
We hustle, baby. The chairman. Hustle, baby. The chairman. Hustle, baby. The chairman.
De retour sur We Hustle. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier d'accueillir pour la quatrième fois mon bat de frangin, mon homeboy, homme de cœur, écrivain, philanthrope, ancien rappeur, Guns Papen.
Ah, sacré toi, frère.
Merci d'avoir accepté l'invitation une nouvelle fois. Tu sais ce que je pense de toi. Tu sais ce que je pense de... des messages que tu véhicules. Et c'est que de l'amour pour toi, frère.
En tout cas, frère, salam alaikum d'abord à tous les frères dans le monde entier. D'accord, que la paix soit avec vous tous, chacun son nom et son prénom. En tout cas, chers frères, c'est toujours un honneur de répondre à l'appel d'un frère comme toi, des frères de valeur. D'accord, des frères qui nous rendent fiers. D'accord, moi j'ai toujours été persuadé que c'est pas l'argent qui fait tourner le monde, que c'est la bonne information. D'accord, je pense qu'on que dans notre, en tout cas notre marche vers l'émancipation totale de notre peuple, voilà, nous commençons à comprendre les choses. Nous ne sommes pas encore arrivés, nous sommes loin, mais je pense que nous commençons à être sur le bon chemin. Quand on a des frères comme toi, des frères comme Parole Véritable et d'autres encore qui exercent. Voilà, ça nous rend fiers. Ça nous rend fiers, ça nous rend grands. Et Inch'Allah, nous serons toujours derrière vous pour que, je ne vais pas dire l'aventure, pour que cette démarche, voilà, d'honneur, voilà, et de réappropriation de notre culture, voilà, progresse.
Merci pour tes mots, frère, sincèrement. On s'était vu il y a maintenant un an et demi. Il s'est passé beaucoup de choses entre-temps. Ouais. Déjà, parle-nous de ton livre, s'il te plaît. Les vrais négros ne meurent. Absolument. Voilà. Quels ont été les retours?
C'est vraiment stratosphérique, frère. Stratosphérique. Voilà. Innommable. Je suis pratiquement à 2500 exemplaires vendus que dans mon site. D'accord. J'ai pratiquement dépassé les 100 000 euros de chiffre d'affaires en 2 ans. Et encore, frère, je te retourne toujours l'honneur grâce à des émissions comme toi. D'accord. J'ai vendu pratiquement 20% de livres grâce à des émissions comme la tienne. Voilà, c'est incroyable. C'est incroyable. De voir aujourd'hui que vous avez aujourd'hui des émissions qui font des choses quantifiables. Voilà. Des grandes choses. Voilà. Et vraiment, vraiment, moi, ça me comble de bonheur. Franchement, je te le jure, frère, tu sais même pas à quel point je suis extrêmement heureux de vous voir avancer. Voilà. Parce que maintenant, c'est quantifiable. C'est du solide. Voilà. C'est du solide, frère. Voilà. Je suis heureux.
Ça fait chaud au cœur, sincèrement, 25. Et. 25. Et du coup, ça fonctionne plutôt pas mal pour toi. Moi, je voyais même à travers tes vidéos, tu disais que grâce à la vente des livres, tu as pu construire d'autres immeubles, voilà. D'autres buildings. Voilà. Et tu vois, nous, ce côté entrepreneurial, il est fondamental pour nous.
Eh ben, c'est un immeuble qui coûte dans les 75 000 euros. D'accord. Toujours dans mon quartier à Yarar. Touba Darus Salam, pour ceux qui connaissent. D'accord. Bountou Pikin. Voilà. Je peux dire que 80% de cet immeuble a été financé par les ventes des livres. Voilà. Moi, j'appellerai toujours à l'indépendance totale. Tu vois, notre peuple n'a pas d'autre chemin que l'indépendance totale. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que nous n'avons pas d'amis dans ce monde. Nous pouvons avoir des alliés, nous pouvons sceller quelques alliances, mais à la fin de la journée, le Renoir doit savoir qu'il n'a pas d'amis dans ce monde. C'est ainsi que Dieu a créé ce monde. Voilà. Nous devons tracer notre chemin, d'accord, toujours vers la dignité totale, en respectant les autres composantes de l'humanité, mais savoir qu'il y aura toujours, comme il y aura toujours l'opposition de la couleur blanche contre et la couleur noire, le jour et la nuit, d'accord, le mal et le bien, c'est comme ça qu'il y aura l'opposition entre nous et les autres. Voilà. C'est peut-être, Dieu, il l'a fait peut-être pour nous éprouver ou pour éprouver les autres composantes de ces créatures, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je perçois ça. Donc, je suis extrêmement heureux parce que c'est une économie qui est qu'entre nous. Voilà. C'est les livres, je les ai financés, je les ai produits, je les ai photographiés, je les ai édités. Et j'ai fait la promo chez toi, des Renoirs comme toi. Toute l'économie est entre nous. Voilà, ça c'est grand, frère. Ça c'est grand. Ça veut dire qu'il faut qu'on apprenne à plus se faire confiance entre nous, que nous pouvons réaliser des grandes choses. Si nous apprenons, je te le jure, à se faire confiance entre nous, je te le jure, le reste du monde tremblera, frémira. Ils savent notre valeur, mais nous, on ignore la nôtre. Ou c'est nous qui la mettons en bas, jusqu'à ce que les autres nous dépassent. Mais le reste du monde savent ce que nous voulons. Que des grandes choses, frère.
Et pour rester sur la thématique de l'écriture, est-ce que pour toi, c'est une consécration ultime de donner... d'avoir donné envie à certains mecs de la rue, entre autres, d'ouvrir un bouquin. Parce que tu sais, moi j'ai reçu plein de messages de personnes qui me disaient qui n'avaient jamais ouvert de livre de leur vie, mais qu'ils l'avaient fait parce que tu les inspirais. Est-ce que pour toi ça, c'est la consécration ultime?
En tout cas, moi j'ai mon objectif premier, c'est d'offrir à tout Renoir un manuel de survie à travers lequel il peut naviguer, à travers les épreuves qu'il va rencontrer dans la société moderne. Donc, il faut traiter de l'histoire des Renois. Il faut parler du futur du peuple noir, les objectifs qu'il doit se fixer, les ennemis qu'il devra affronter. Et ça, on ne peut que puiser dans notre histoire pour donner les solutions. Donc, c'est ce que j'ai fait. En allant dans les églises, dans les cathédrales, dans les synagogues, dans les mosquées, d'accord, dans les musées, dans les librairies, dans les pyramides, dans les tombes des pharaons, dans les déserts, dans les océans, dans les places les plus négrophobes dans ce bas monde, d'accord, pour vivre dans ma chair vraiment ce que je pense être la solution pour notre peuple. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de retranscrire dans ces livres. Et vraiment, je suis extrêmement heureux. Je suis vraiment extrêmement heureux parce qu'il n'y a pas un jour, je te le jure, où je ne vends pas un ou deux ou trois livres. Je te donne juste un exemple. Dimanche dernier, j'étais à Elbeuf pour faire une conférence sur notre région, le Fouta-Toro. À la fin de la conférence, j'ai vendu pratiquement 25 livres. Je croyais peut-être en vendre 3 ou 4. J'ai vendu 25 livres. Voilà. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui m'arrive. Et je serai éternellement reconnaissant, tu vois. Ça montre vraiment que notre peuple, voilà, il ne veut pas de la médiocrité. On le force à vivre dans la médiocrité. Mais notre peuple sait reconnaître les grandes choses. Je suis content.
Tu sais, bon, avant de commencer l'émission, on parlait de voyage, parce qu'on est férus de voyage tous les deux, hein, tu vois. Et tu vois, au Portugal, j'ai eu l'occasion de m'y rendre à plusieurs reprises.
Ah, ça fait... T'as vu, hein?
Ah, c'est beau, c'est très beau, très beau. Voilà. Mais tu vois, moi, je voyais des gens se plaindre parce qu'il y a une communauté qui est arrivée dans ce pays et qui ne se comportait pas bien. Tu vois? Et je vais poursuivre mes dires, mais tu vois, même dans les textes religieux ou même à la mosquée, on te dit tout le temps que il faut avoir le bon adab, le bon comportement. Toi qui as l'habitude de voyager, parce que tu sais, même dans ton livre, tu avais parlé d'un événement survenu à Athènes où des gens se comportaient pas bien, etc. Quel serait le message que tu pourrais distiller?
Eh bien, déjà, je pense que nous, en tant que Sénégalais déjà, ce que je déplore avant tout, c'est que jamais un président sénégalais ne s'est déplacé pour venir voir nos diasporas, les petits frères qui viennent d'arriver là. Parce que ce sont eux l'image du nouveau Sénégal. Et ça, si on ne résout pas ce problème, ça veut dire si le président ou les grands responsables, les grands dignitaires du Sénégal ne se déplacent pas en Europe pour voir comment sont accueillis tous ces jeunes qui ont pris les pirogues, qui ont pris les bateaux, qui ont traversé vraiment le désert, qui ont fait vraiment le parcours du combattant avant d'arriver ici. Je vous le jure, l'image du Sénégal en prendra un grand coup. Et déjà, je l'observe. Avant, moi, quand j'arrivais en France, on ne voyait pratiquement pas de noirs SDF. Aujourd'hui, c'est chose commune. C'est partout. J'étais pratiquement il y a 2 semaines à Florence, en Italie, à Naples, tout ça. Je vous le jure, quand vous venez devant la gare de Florence, vous croyez que vous êtes à Colombane. Pour ceux qui connaissent Colombane. Une infamie. Quelque chose qui dévalorise l'image du Sénégal. Mais malheureusement, nos autorités, depuis le début, d'accord, n'ont pas accordé à l'image que nos frères donnent à l'extérieur. Et ça, c'est une grave erreur. Encore, je donne encore des choses pour qu'on puisse quantifier. Le Sénégal, aujourd'hui, se targue d'avoir 1 million de touristes. C'est faux. 1 million de touristes équivaut à pratiquement 8 avions de 300 touristes qui débarquent à Blaise Diagne par jour. C'est pas vrai. Blaise Diagne n'accueille pas aujourd'hui plus de 3 avions ou 4 avions de 300 touristes par jour. On n'a pas plus de 400 000 touristes. Là où le Maroc aujourd'hui a 17 millions.
Mais tu te bases sur quoi pour avancer ces chiffres?
Mais parce que je le vois, mon ami. Je sais que je défie quiconque d'aller à l'aéroport Blaise Diagne de Dakar compter le nombre d'avions où il y a de touristes. Il n'y a qu'une seule manière pour un touriste de venir au Sénégal, c'est l'avion. Personne ne vient en croisière, tout le monde vient en avion. Donc, c'est facilement quantifiable. Aujourd'hui, le Sénégal ne peut pas dépasser plus de 400 000 touristes. C'est moi, je l'affirme. D'accord? On a un pays à côté de nous comme le Cap-Vert qui a 4 aéroports internationaux. Avant, moi, je me rappelle quand j'étais petit, les Cap-Verdiens venaient chez nous pour travailler. Allez aujourd'hui voir l'état des Sénégalais, comment ils mendient, comment ils commandent au Cap-Vert. J'étais au Cap-Vert. Voilà. Le président de la République du Sénégal devra sortir, aller faire le tour de la diaspora et leur parler sérieusement comment ils doivent se comporter pour la bonne image, comme les Turcs ils font. Comme les Turcs. Voilà. Voilà. C'est très, très important, ça. Mais il y a plein de choses que les dirigeants négligent. Alors que c'est les choses les plus importantes, parce que c'est l'image, le portrait de ton pays à l'extérieur.
Et tu sais, ces derniers temps, tu étais au Sénégal, et j'ai vu qu'à un moment donné, tu étais très fâché contre la présidence, contre le gouvernement. Ouais. Tu disais même de venir te chercher chez toi s'ils avaient des soucis.
Ouais.
C'était quoi le fond du problème?
Le fond du problème, tu sais, pour gouverner un pays, il ne faut pas des diplômes, comme on nous l'explique au Sénégal ou en Afrique, là. Ça, c'est une propagande d'élite. Pour gouverner, il nous faut 3 grands critères. La justice, le courage et la vision. Au Sénégal, nous avons eu un grand président qui s'appelait Abdoulaye Wade. Il avait le courage et la vision, mais il n'y avait pratiquement pas de justice. Nous avons eu Macky Sall, qui avait la vision, mais n'a ni courage, ni justice. Nous avons cela. De ce que j'ai constaté, je vous dis, ni courage, ni vision, ni justice. Le Sénégal est perdant sur toutes ses frontières. Toute personne qui connaît le Sénégal vous dira que la frontière avec la Mauritanie, nous sommes perdants. La frontière avec le Mali, nous sommes perdants. La frontière avec la Guinée-Bissau, nous sommes perdants. La frontière avec la Guinée-Conakry, nous sommes perdants. Et j'ai fait toutes les frontières, j'ai fait tout le tour du Sénégal. J'ai visité pratiquement plus de 400 ou 450 communes du Sénégal. Je sais de ce dont je vous parle. Alors, je ne sais pas si j'ai parlé de la frontière avec la Mauritanie, c'est la pire. Voilà, c'est de ça. Quand ils laissent des étrangers, regardez le dernier exemple, les Mauritaniens, comment ils ont traité le Sénégalais. Nos compatriotes. Quelle était la réaction de notre gouvernement? Aller caresser dans le sens du poil les Mauritaniens. Il faut de la respectabilité, d'accord? Et ça, le Sénégal en manque depuis le départ d'Abdoulaye Wade. Voilà.
Mais, je ne sais pas si tu te souviens, mais Abdoulaye Wade aussi est sorti par la petite porte.
Oui, mais parce qu'il n'avait pas de justice, mais il avait du courage. Je t'ai dit que pour gouverner, il faut ces trois critères. Justice, courage, vision. Abdoulaye Wade avait la vision et avait le courage. Tous ces grands projets qu'on voit, c'est Abdoulaye Wade qui les a posés. Moi, quand j'étais petit, dans les fins des années 80, Abdoulaye Wade, il est parti combien de fois en prison? Abdoulaye Wade, il a dû partir peut-être en prison plus de 10 fois. En tout cas, je sais que moi, quand j'étais petit, Abdoulaye Wade, il nous faisait toujours sortir de l'école pour aller faire des grèves. Moi, je fais partie de la génération, ceux qui ont fait l'année blanche. En 1989, j'étais au lycée Blaise Diagne. Nous sommes restés 6 mois sans étudier pour faire plaisir à Abdoulaye Wade.
Ok.
Moi, je fais partie de ça, moi.
Voilà. Et tout à l'heure, tu parlais du peuple sénégalais. Mais c'est quoi le son de cloche là-bas?
C'est que on nous parle de PIB qui est monté, de taux de croissance. Mais ça n'impacte pas la vie du Sénégalais lambda. Ça impacte les sociétés. Le gouvernement doit savoir qu'il n'est pas là pour les sociétés. Il est là pour le Sénégalais lambda. Si la vie du Sénégalais lambda ne change pas, ça ne vaut rien, tous ces chiffres ronflants là. On a un PIB de 30 milliards, on a une croissance de 8%, ça ne ruisselle pas, comme on dit. Et ça ne devrait même pas ruisseler. Dans un pays où on a plus de 80% de l'économie, c'est du secteur informel, on ne peut pas nous parler de PIB ou des trucs comme ça. C'est de la propagande, tout ça. Le gouvernement du Sénégal doit revenir sur les réalités. Laisser les gens travailler. Ce qu'on ne fait plus aujourd'hui. Laisser les Sénégalais travailler. Leur faciliter le travail. Voilà. Voilà, je rappelle que le Sénégal, il y a plus de 80% de l'économie, c'est du secteur informel. Ce n'est pas les grandes sociétés qui font manger le Sénégalais lambda. C'est la débrouillardise qui fait manger le Sénégalais lambda. Voilà, ça faut que ce soit clair dans la tête des gens. Donc, on peut nous dire FMI, on peut emprunter tout ce qu'on veut, ça ne changera rien du tout tant qu'on ne facilitera pas l'entrepreneuriat individuel d'un Sénégalais.
Voilà. On parle tout le temps de Grande Afrique, etc., mais est-ce que toi, tu constates aussi la fuite des cerveaux?
Bon, déjà, on nous parle de grand retour des cerveaux. Ceci ne se passe que dans les grandes villes où des médecins proposent des prix supérieurs à ce qu'on trouve en Europe. Je donne toujours moi des prix. Un pneumologue à Dakar, minimum, c'est 50 euros la consultation. Minimum. La dernière fois, quand je faisais la marche, j'étais à Richatol. Richatol, c'est à peu près une ville à peu près entre 50 000 et 100 000 habitants. Il n'y a qu'un seul spécialiste là-bas, un cardiologue. Voilà. Faut que les Sénégalais se réveillent. Il y a une désertification médicale au Sénégal vraiment incroyable. Pourquoi? Parce que tout le monde veut exercer sur Dakar parce que c'est là-bas que ça paye. Je ne sais pas. Donc, est-ce qu'il faudra forcer les étudiants en médecine d'exercer hors de la zone de Dakar? Est-ce qu'il faudra les inciter avec des primes ou je ne sais pas? Mais en tout cas, ce qui se passe à l'intérieur du pays, tout le monde s'accordera à vous dire que c'est catastrophique côté santé. Donc, qu'on nous dise que les gens iraient viennent investir, mais ça sert à quoi si 90% du pays n'est pas bien soigné? Ça sert à quoi si 90% du pays n'est pas éduqué? Je vous le jure, et j'ai fait attention aux chiffres que je donne, parce qu'ils peuvent encore aller plus haut. D'accord? Et même ceux qui habitent à Dakar, ils ne peuvent pas se soigner. Qui peut se soigner avec une consultation à 50 euros?
Est-ce que ce n'est pas des questions qui sont soulevées par le gouvernement? Où ils balayent tout ça d'un revers de main?
Moi, je te parle de mon constat. Quand j'ai parcouru tout le pays, d'accord? Ils peuvent faire des colloques, ils peuvent faire des interventions. Et moi, je te dis ce que j'ai constaté. Voilà. Le rôle du gouvernement, si vraiment il est le gouvernement du Sénégal, c'est de résoudre les problèmes des Sénégalais les plus faibles. Voilà. S'il n'y arrive pas, il a échoué. Donc, il n'y a pas besoin de nous donner des grandes conférences, des grands mots, des grands termes. Non, le rôle du gouvernement, c'est que le Sénégalais le plus faible ait accès à la santé, à l'éducation. Ce n'est pas de nourrir le Sénégalais. Le Sénégalais, pour la nourriture, il va le trouver lui-même. Mais la santé, l'éducation et la sécurité, la justice, ça, le gouvernement doit l'assurer. Sinon, ce n'est pas un gouvernement.
Voilà. Et tu vois, toi, ces derniers temps, encore plus que d'habitude même, tu as parlé du Fulanistan. Déjà pour ceux...
t'es grave.
Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que tu peux être un peu plus précis, s'il te plaît?
Donc, moi, ce que j'appelle le Fulanistan, c'est le Foutatoro, ça veut dire la région nord du Sénégal, un peu le Boundou, ça veut dire la région du Sénégal oriental, et un peu le Djolof. C'est ça ce que j'appelle le Fulanistan. Voilà. Mais tout ça, pour moi, tout ça, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle le Grand Sénégal. Qu'est-ce que le Grand Sénégal? C'est la Gambie et le sud de la Mauritanie qui nous appartenait et qu'on a cédé à la Mauritanie. Voilà. Le Fulanistan fait partie intégrante du Sénégal. Ce n'est pas une région sécessionniste, mais c'est la matrice civilisatrice avec l'Empire du Ghana du Sénégal. Ça, c'est, on ne peut pas le nier, ça. Voilà.
Ça a le mérite d'être clair, mais... Et d'ailleurs, c'est même une bonne chose, hein, pour être totalement honnête avec toi, de mettre les projos, les pleins phares sur une région qui, pour toi, peut paraître un peu délaissée. Ouais. OK? Ouais. Mais est-ce que ce tribalisme-là ne peut pas causer la perte du Grand Sénégal? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Parce que si toi, tu penses de la sorte, un frère de Casamance pense de la sorte, les gens de Kédougou, pareil. Ouais. Finalement, à qui ça va profiter?
Mais ça va profiter au Sénégal, puisque si on fait des grandes infrastructures, que ce soit à Casamance, que ce soit à Kédougou, que ce soit à Tambacounda, dans le Sénégal oriental, ou soit dans le Djolof, ou dans le Sine, ou dans le Saloum, ou dans le Baol, c'est pas que les gens du Baol qui vont l'utiliser. Toi, quand tu vas partir là-bas, tu vas les utiliser. Puisqu'on est incapable aujourd'hui de faire une convergence totale. On n'arrive pas à le faire. On a échoué. Ça fait 60 ans qu'on fait cette politique de État jacobin, tout est en haut. Ça ne marche pas. Il faut tout décentraliser. L'État aujourd'hui au Sénégal ne devrait s'occuper que de la justice, de la défense et des... Et non, excuse-moi. De la politique étrangère et de la sécurité des Sénégalais. Le reste, on devrait donner à chaque région sa spécificité pour qu'elle s'épanouisse au service du Grand Sénégal. Si on ne le fait pas en ce moment en nous-mêmes, c'est une diversité culturelle, c'est une richesse. Voilà, c'est une richesse. Voilà. Ça fait 65 ans qu'on est dans ce pseudo-État jacobin qu'on a hérité de l'État français. Ça ne marche pas. Peut-être faut essayer un système comme les Länders en Allemagne où vous avez plein de... L'Allemagne, c'est fédéral. Où chaque Länders, il a sa spécificité. Ça veut dire là où l'État faillit, d'accord, il y a des acteurs régionaux qui vont prendre sa place. Mais ça encore, il faudrait que l'État les pousse à aller de l'avant. L'État leur facilite les moyens d'accès pour développer leur région. Voilà.
Ça t'intéresserait pas, toi, de la politique institutionnelle?
Pour l'instant, moi, je ne suis pas dans la politique. Je n'ai jamais fait de politique.
Je sais bien.
Je n'ai jamais voté de ma vie. J'ai 50 ans aujourd'hui. Je n'ai jamais voté de ma vie. Voilà. Je n'ai jamais adhéré à un parti. Parce que je crois que la véritable politique, moi, c'est la politique locale. Les initiatives locales, c'est ça qui fait développer un pays.
Voilà. Tu sais, lorsque tu es venu la première fois, je t'avais posé la même question. Et pareil, tu avais fermé la porte directement. Mais tu sais, toi, tu es quelqu'un de sensé et qui a des idées pertinentes. Tu vois, que tu sois d'accord ou pas, au moins, ça a le mérite d'être posé. Est-ce que pour bouger les lignes, tu ne devrais pas... Tu verbalises les choses, mais plutôt les formaliser, là, cette fois-ci, de manière officielle, avec un parti, avec des choses vraiment officielles.
Oui, de toute façon, tôt ou tard, ça devra prendre cette forme-là. Donc, je ne sais pas si je vais me structurer comme une ONG. Je ne sais pas comment je vais me structurer. En tout cas, je suis là-dedans. Mais ça ne va pas tarder. D'ici 6 mois, je vais me structurer, Inch'Allah. Mais tout ce que je fais, ce sera au service des plus faibles du Sénégal. Qu'est-ce que je veux, moi? Moi, je veux que des zones, je veux que le vieillard de Kédougou, il vienne visiter le Foulanistan, il trouve une belle mosquée, il trouve un oasis. D'accord? Comme moi, je suis parti à Dindi Fello. Je veux que le gars du Sénégal oriental, il vienne visiter nos mosquées. Je veux que le gars du Bawol vienne visiter nos mosquées. Donc, on a aujourd'hui des gens qui ont 60 ans, qui ne connaissent que leur village de Dakar. Leur village, parce qu'ils y retournent pour fêter la Corité, la Tabaski, la Eid, tout ça, et Dakar pour travailler. Donc, c'est pour cela que les gens ne se connaissent pas.
Quand tu vois certains postes, et parfois tu vas en croisade contre le gouvernement, tu vas en croisade contre certaines têtes, etc., on peut penser que c'est infondé. Mais en creusant, effectivement, ça a du sens. Mais tu n'as pas peur que certaines personnes regardent que la couverture et se disent que c'est un égaré, c'est un perdu?
C'est pas grave, parce que moi, je sais...
Toujours, est-ce que tu me suis?
Je te suis. Je te suis 100%. C'est pas grave, parce que moi, je sais où je veux aller. Tu sais, quand tu sais où tu veux aller, quand tu sais que l'intention, elle est bonne, les gens finiront toujours par reconnaître leur erreur. Moi, si ça tenait qu'à moi, il n'y aurait même pas, dans le Sahel, là, il y aurait un seul État. Ça veut dire du Sénégal jusqu'au Soudan, ce serait un seul État. Si ça tenait qu'à moi. Je l'ai écrit dans mon livre. Un État qui aurait plus de 1 million de soldats. C'est ça un véritable État. Le Sénégal, lui-même aujourd'hui, je vais te dire une chose, je vais te faire une révélation. Ne peut pas tenir face à une invasion de 6000 djihadistes. Il ne peut pas tenir. Il parle, mais il ne peut pas. Ils ne peuvent pas.
Non, je ne peux pas te laisser dire ça.
Je te le garantis, ils ne peuvent pas. Ils parlent. C'est de la littérature, mais ils ne peuvent pas. Parce que le Sénégal n'a pas une armée de réserve. Le Sénégal ne forme pas ces gens aux menaces auxquelles il est confronté et qui sont à nos portes. Mali, au Burkina, au Niger, au Tchad. Les gens, ils oublient Tchad. Maintenant, au nord du Bénin, je peux te garantir, le Sénégal ne pourra pas tenir aujourd'hui face à une attaque de 5000 ou 6000 djihadistes. Il est temps qu'il informe les gens et forme les gens.
Voilà. Et tu sais, le Sénégal, malheureusement, a connu pas mal de tempêtes ces derniers temps. Mais toi, quand tu prenais la parole... T'étais toujours pacifiste. Tu vois, quand il y a eu le conflit entre Macky, Sonko, etc., t'étais toujours pacifiste. Mais là, t'as un discours très dur.
Mais parce que, mon ami, j'ai vu des choses mais très, 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 très dures. J'ai vu des gens qui n'arrivent même pas à assembler mais 40 centimes. Comme je l'ai dit encore dans une autre émission, je suis avec des gens, d'accord, qui, pour se soigner de l'hypertension prennent de l'aspirine, faute de médicaments. J'ai vu des gens qui avaient pratiquement le bras coupé, qui ne peuvent pas aller à l'hôpital parce qu'on refuse de les soigner s'ils n'avancent pas l'argent. La santé au Sénégal, c'est un gouffre. C'est un puits sans fin. D'accord? D'accord? Et ça, on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Et surtout, que même les urgences au Sénégal n'acceptent pas les gens s'ils n'ont pas les moyens. Tu viens au Sénégal pour te soigner, la première chose qu'on te demande, c'est d'abord, est-ce que tu as de l'argent? Voilà. Alors que la santé, parce que personne ne choisit d'être malade. Donc la santé, c'est un service que le gouvernement devrait assurer pour chaque Sénégalais. Donc, quand je parle du Sénégal en particulier, mais ce modèle-là devrait être développé dans toute l'Afrique. D'accord? Je parle du Sénégal parce que c'est de là d'où je viens.
Et c'est quoi les retours que tu as concernant ce projet-là du Fulanistan, des infrastructures, etc. C'est quoi?
Moi, ce que j'aimerais, en tout cas, mon projet déjà, il s'articule sur... Je vais énoncer les 5 points principaux. D'accord? Les 5 points principaux. La première chose, d'abord, c'est la restauration de tout le patrimoine culturel et historique du Fulanistan. Les mosquées, les mausolées, le rendre attractif au tourisme intra-sénégalais. Nous, on veut des touristes sénégalais d'abord.
Mais pourquoi?
Mais parce qu'il faut que les gens connaissent l'étendue et la grandeur de notre valeur historique. Si on ne connaît pas notre histoire, si on ne connaît pas la révolution du Fouta, si on ne connaît pas tous ces gens qui ont participé à l'islamisation du Fouta, si on ne connaît pas le royaume Tekrour, si on ne connaît pas les Mamadou Lamine Dramé, si on ne connaît pas les Fouté Kaba Doumbouya, si on ne connaît pas tous ces grands savants, c'est eux qui ont libéré le Sénégal. Ce n'est pas les gens qu'on nous dit qui ont libéré le Sénégal. Il y a un révisionnisme sur l'histoire du Sénégal. Ce sont les grands imams qui ont libéré le Sénégal. Du jus des colons. Voilà. On ne parle pas de Cheikh Amadou Bamba comme il faut. Sauf chez lui. On ne parle pas de Hajj Malik. Voilà. Tu demandes Fode Kaba Doumbouya, l'imam Diakhanké de Casamance, qui le connaît. Tafsir Mabadjahouba, qui en parle. Cheikh Amadou Douro Madiou, qui en parle. Dile Fatim Tcham, qui en parle. Serigne Koki, qui en parle. Il faut que tous ces gens-là, ils aient des grandes avenues, ils aient des grands bâtiments qui portent leur nom. Voilà. Que le Sénégal connaissent sa véritable histoire, excuse-moi. D'accord? Donc, mon deuxième point, moi, c'est de faire des petites unités médicales, toutes les 30 km dans le Fouta, comportant un gynécologue, comportant un cardiologue, comportant un pneumologue et un médecin généraliste. Car ce sont les maladies les plus répandues, les besoins les plus répandus au Sénégal. Des petites unités, même si elles coûtent 25 ou 30 000 euros. Ça peut se chiffrer à 400 000, 500 000 euros pour faire 20 unités médicales. Mais après, les gens de Casamance, il faut qu'ils fassent pareil. Les gens du Kédougou doivent faire pareil. Surtout que le Fouta, c'est la région la plus étendue. Donc, si le Fouta en a besoin de 20, la Casamance en a besoin peut-être de 15. La Casamance, ça fait peut-être 400 km. Tu comprends? Donc, tout ça, c'est faisable par la diaspora. Et ça va beaucoup soulager l'État et ça va beaucoup aider nos populations.
Et toi, la Casamance qui veut être indépendante, t'en penses quoi?
Moi, déjà, je vais te dire une chose. Je suis pour l'autodétermination des peuples. Tout peuple qui veut se libérer, moi, je suis pour son indépendance. Si les Casamançais font un référendum, que les Casamançais veulent se départir du Sénégal, eh bien, c'est leur droit de partir. Ce n'est pas à moi d'obliger les gens d'être dans un mariage forcé. Moi, je respecte l'ambition. Mais moi, je suis persuadé que les Casamançais ne veulent pas partir du Sénégal. J'en suis absolument certain. Si on fait un référendum, il n'y aura même pas 20%.
Mais comment t'expliques que ce soit sorti, ça?
Ça, c'est une machination, ça. C'est une machination politique, ça. Depuis le départ d'Émile Badiane, c'est une machination, ça. C'est une machination. Parce que tout le monde y trouve son compte. L'État du Sénégal, ça le permet de mendier pour dire qu'il veut la sécurité dans le Sud. Et les mouvements aussi, ça leur permet aussi, eux aussi, d'avoir de l'argent pour dire qu'ils veulent pacifier la Casamance. D'accord? Mais je suis certain que si on fait un référendum, la Casamance, c'est quoi déjà? C'est la région de Sédhiou, la région de Kolda, la région de Ziguinchor. La Casamance, ce n'est pas que la région de Ziguinchor. Ce sont des populations très diverses qui vivent dans, à travers tout ça, qui ont des cultures extrêmement différentes. Mais, je te le répète, que moi, je suis pour l'autodétermination des peuples. Je considère les peuples plus sacrés que les États. Parce que les peuples sont des créations divines. Les États sont des créations humaines. Une création humaine ne peut pas, primer sur une création divine. Ça veut dire, les djola, quand ils sont venus sur Terre, c'est comme création de Dieu. Les bédiks, c'est une création de Dieu. Les konyadji, c'est une création de Dieu. Les bassari, c'est une création de Dieu. L'État sénégalais n'est pas une création de Dieu, c'est une création humaine. Donc, c'est l'État qui doit faire tout pour que la Casamance, elle reste dans le Sénégal, en leur offrant tous les meilleurs services qu'il peut. Si ton enfant, il veut partir de ta maison, c'est peut-être qu'il n'y trouve pas son compte. L'État doit toujours agir comme un père de famille.
Est-ce que toi, Terme, t'envisages de rentrer de manière définitive au Sénégal?
Qui, moi?
Ouais.
Bien sûr. Fulanistan. Toujours.
Mm-hmm.
Fulanistan, Futatoro. Voilà. Mais moi, comme je t'ai dit, moi, c'est que moi, je parle du grand Sénégal. Voilà. Je parle même du grand État d'Israël, comme je t'ai dit, qui va jusqu'au Soudan. Voilà.
Ça a le mérite d'être clair.
Voilà. Donc moi, je respecte toutes les populations, leur volonté.
Et tu sais, sans transition, il y a quelque temps, on avait reçu Souleymane Renédé.
Ah
ouais. On l'avait reçu, que je salue au passage.
Respect total.
Et c'est un frère qui bosse énormément. Voilà.
C'est une machine,
honnêtement, et qui nous apprend beaucoup, même à travers ses ouvrages, etc., tu vois. Donc lui, il essayait de rendre aux Africains et aux Noirs, par la même occasion, leur lettre de noblesse, tu vois. Tu vois, il m'a même appris des choses, hein, à titre personnel, tu vois.
À nous tous, pas qu'à toi. Attention.
Je ne me permettrai pas de parler pour tout le monde.
À nous tous. Vois. Rien qu'aujourd'hui, j'ai regardé Internet, j'ai vu un homme qui a fait un exposé sur son livre.
Oh.
1504, qui parlait du Bakht.
D'accord, d'accord.
Bakht 652, ce qui s'est passé en Égypte, là, de la bataille de Dongola. J'ai vu aujourd'hui un homme qui faisait un exposé sur cette bataille-là et qui a utilisé le livre de
Souleymane. Il s'est appuyé sur le livre. Voilà. C'est magnifique. Et ça sert à ça, justement.
Voilà. Souleymane est indispensable. Pour aujourd'hui, pour notre lutte. Voilà.
En tout cas, il appréciera ses paroles élogieuses, voilà, sincèrement.
Voilà, mais parce qu'il travaille.
Mm-hmm. Et tu vois, si je me permets de te parler de lui, c'est que il a des positions très fermes sur certains sujets, etc. Et il y a certains kémites aussi qui le rejoignent et qui s'appuient sur ses dires, certains de ses dires. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire? Toi, à travers les années, tu t'es totalement désolidarisé de ce mouvement. Kémite.
Ouais, ouais.
Mais en fait, moi, je ne comprends pas pourquoi tu es désormais ferme sur certaines positions, parce que si je dézoome un petit peu, il y a quand même quelques similitudes entre tes pensées, tes actions et les leurs.
Ouais.
Tu me suis?
Ouais. Je suis d'accord. Bon, je t'explique d'abord, avant tout d'abord, il faut que les gens comprennent. Il y a trois choses que nous, on ne négociera jamais. Notre religion, notre peuple et notre patrie. Donc, dans ton cas ou dans mon cas, l'islam, le peuple sénégalais et notre patrie, la terre où nous vivons au Sénégal. Ce sont des choses que nous, on ne négocie pas. Moi, j'ai toujours tendu la main au frère Dikémite, que je n'appelle plus à partir de maintenant frère. Non, moi, je vais être très clair. Je suis allé avec la LDNA. Il n'y avait aucune simulation. À chaque fois, regardez tous mes vidéos avec la LDNA. Je dis, je suis venu en tant que votre frère musulman avant d'être noir. Je suis venu soutenir votre cause parce qu'il y a des musulmans qui se comportent injustement. Pourquoi je suis venu faire ça? Parce que c'est ce que l'islam nous demande de faire. Tendre la main à n'importe quel frère sur cette terre pour la justice, qui subit une injustice. Je les ai accompagnés quand on est parti à l'ambassade libyenne. Allez voir les vidéos. Je les ai accompagnés à la conférence d'Éric Zemmour à Saint-Michel. Il y avait tout un bataillon de nazis contre nous. Il y avait moi et la LDNA. Moi, à chaque fois qu'ils m'ont appelé, les gens de la LDNA, ils m'appelaient pratiquement tout le temps pour savoir les positions de l'islam sur certains sujets. Si moi, je les ai informés. Je dis, bon, vous pouvez faire ça. S'il y a un problème, vous m'appelez, moi, Alpha, je vais parler aux musulmans. Je dis que ça, vous avez le droit de le faire. D'accord? Tout ça, moi, pas pour les attirer vers l'islam. Moi, je ne peux guider personne, je ne peux égarer personne. D'accord? Mais pour leur montrer qu'on n'est pas des ennemis, qu'on a des points communs. Mais au fur du temps, chers frères, j'ai remarqué que ce n'est pas la lutte pour le peuple noir qui les intéresse. Je ne parle pas de la LDNA, mais les Kémites en général. Ce qui les dérange, c'est que nous soyons musulmans. C'est l'islam, le fait qu'on soit musulman, qu'on ait une foi ferme en Dieu. Et qu'eux, ils l'ont pas, ça, ça leur fait très, très mal. Dieu a dit dans le Coran, وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا. D'aucuns des gens du livre voudraient que vous redeveniez des mécréants de leur part, une fois que la vérité s'est manifestée à eux. Le fait qu'on s'accroche à notre religion et qu'ils n'aient pas où s'accrocher, ça leur fait très, très, très mal. Donc, par jalousie, d'accord? Donc, nous, une fois qu'on a pris ça en compte, on n'a pas d'autre choix que de préserver notre religion. Et je pense qu'à partir de maintenant, moi en tout cas, je parle pour moi, c'est de me séparer complètement d'eux pour me préserver ma religion. D'accord? Les Renois qui veulent rester avec eux, alhamdoulilah. Mais moi, j'annonce, pratiquement, s'ils ne font pas attention, je ne les saluerai même pas.
Non.
Je te jure, je vais jusqu'à... Je te le jure, quiconque insulte l'islam, par Allah, je ne te serre pas la main.
Mais peut-être que toi...
Si tu insultes l'islam, je te jure, c'est innégociable. Si tu insultes l'islam, je ne te serre pas la main, je ne m'assois pas avec toi. Et j'appelle tous les musulmans noirs, en tout cas, ou tous les véritables musulmans, quelqu'un qui insulte l'islam, ne vous asseyez pas avec lui. C'est une injonction divine. Maintenant, chacun, il fait ce qu'il veut. Moi, je ne suis le guide de personne, je ne suis le leader de personne, excepté le chef de ma famille. D'accord? Mais j'ai toujours été clair avec les gens. Il n'y a pas de ruse, il n'y a pas de sournoiserie, il n'y a pas de fourberie, il n'y a rien. Mais parce que moi, je ne cherche pas le soutien des gens ni leur amour, mais je dis toujours mes positions. D'accord, voilà.
Mais c'est peut-être un faible pourcentage de personnes qui pensent comme ça, tu vois.
J'ai pris ma décision, je ne participerai plus à leur émission, je ne parlerai plus avec eux, je ne marcherai plus avec eux, voilà, c'est tout. J'ai pris mon chemin. Mais voilà. Ils peuvent faire alliance avec d'autres noirs. Mais moi, c'est fini.
Mais tu sais, tout le temps, je te dis combien tu es réfléchi. Mais parfois, tu es aussi spontané. En fait, moi, je veux savoir, tu te bases sur quoi pour avancer
Je me suis rendu compte que leur but ultime n'est pas l'émancipation totale du peuple noir, mais combattre l'islam. Et pour moi, encore, si vraiment tu me laisses développer ma pensée, ces gens, ils sont financés par des forces étrangères à l'Afrique qui veulent combattre l'islam. Et pour plus précisément, des sionistes. On verra. Je vous donne rendez-vous dans 4 ans.
Non.
Je vous donne 4 ans. Je vous donne rendez-vous. Frère. Je vous donne rendez-vous dans 4-5 ans. Je vous le jure, tout va s'éclaircir.
Quand le message est passé.
Voilà, alhamdoulilah. Alhamdoulilah.
Et est-ce que ton avis sur l'aide extérieure a évolué depuis notre dernière rencontre? Parce qu'avant, quand on avait échangé à propos du Sénégal et même de l'Afrique, hein, de manière générale, tu disais que la main tendue devait uniquement provenir d'un local.
Voilà. C'est ce que je continue de penser. Voilà. 65 ans d'aide externe. D'accord? Qui nous a plus confortés dans l'assistanat? D'accord? Dans la paresse. Aujourd'hui, un pays, Sénégal, traversé par 3 fleuves. Fleuve Sénégal, fleuve Gambie, fleuve Casamance. Tout le Sénégal est fertile. Les seuls qui travaillent sérieusement au Sénégal sont nos frères les serreurs. Les serreurs, tu vas dans leur terre, tu creuses un puits, tu fais 100 mètres, tu ne trouves pas l'eau. Tu vas dans le Fouta, tu fais 10, 15 mètres, tu trouves l'eau. Mais parce qu'on ne travaille pas assez. Tu vas en Casamance, qu'est-ce qu'ils font? C'est vert, mais ils ne travaillent pas. Les seuls qui, si on avait donné la Casamance ou le Fouta au Serrer, tu vas voir ce que le Sénégal va devenir. Donc, il faut éduquer et s'il faut imposer aux gens un rendement annuel qui doit, d'accord, rendre le Sénégal autosuffisant. D'accord? D'accord. Mais allez dans le Sine. Allez creuser un puits dans le Sine. Allez creuser un puits dans le Djolof. Vous faites 100 mètres, vous n'avez pas de l'eau. Et pourtant, c'est des gens, des travailleurs. Les céréales. Vraiment, je leur tire toujours mon chapeau. Ils auraient mérité d'avoir nos terres, nous, au Fouta ou les gens de la Casamance. Voilà. C'est ça la vérité du Sénégal.
Sans transition, tu penses quoi, toi, des positions d'Ibrahima Traoré aujourd'hui?
Bon, moi, je pense que tout commence déjà par un discours. Le discours qu'il tient, c'est pratiquement le discours que je tiens ou que j'ai toujours tenu. Donc, son discours, je ne peux que l'appuyer. Malheureusement, les actes ne suivent pas assez. Mais le discours, c'est le discours que notre peuple a besoin d'entendre. Ça fait au moins 65 ans qu'on n'a pas entendu ce genre de discours. Donc, je le conseille, je lui conseillerai de continuer. Mais sur le terrain, de changer beaucoup de choses. De changer beaucoup de choses.
C'est-à-dire?
Toujours, il ne faut jamais oublier, les Algériens, ils ont eu une guerre civile de 300 000 morts. Ça a fini par des négociations. Ça a fini par donner à des gens qui ont pris le maquis chacun un appartement, pratiquement. Aujourd'hui, Boko Haram au Nigeria, pour que les gens arrêtent, on leur donne des appartements pour qu'ils arrêtent. Il ne faut pas confondre la propagande d'Internet et ce qui se passe sur le terrain. C'est pratiquement le contraire de ce qui se passe sur le terrain. Je peux te le garantir, moi je suis là. Moi je sais de quoi je parle. Ces gens qu'on dit font le djihad, ils sont ultra armés. Ils sont ultra puissants. Et la preuve qu'ils sont ultra puissants, c'est qu'ils débordent même sur les autres pays, sur les autres pays limitrophes. S'ils n'étaient pas puissants, ils n'allaient pas le faire. Et que je sais aussi que 90% d'entre eux, si on leur propose un emploi décent et une maison décente, ils vont s'arrêter. Voilà. N'allons pas jusqu'à un point de non-retour. Regardons l'expérience algérienne. Plus de 300 000 morts. 10 ans de combat pour finir par négocier. Voilà. L'homme intelligent, c'est celui qui regarde toujours les erreurs des autres. Ne tombe pas dans la stigmatisation des ethnies. Ne tombe pas dans le musulman, il est mieux que le chrétien. Tu es le président de tous les Burkinabés. Même ne tombe pas aussi dans, voilà, les traditionalistes doivent avoir leurs droits. Ceux qui ne croient pas en Dieu doivent avoir leurs droits. Les musulmans doivent avoir leurs droits. Les chrétiens doivent avoir leurs droits. Les Mossi, les Bissa, les Peuls, tout le monde doit avoir leurs droits.
Et là, je suis obligé de te reprendre parce que tu as dit qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on voit sur Internet à son sujet. Ouais. C'est-à-dire
que, tu veux clairement que je te développe?
S'il te plaît.
Je peux te garantir que dans ces pays, comment je te dis ça? Les gens qui disent qu'ils font les djihad, là, ils contrôlent beaucoup de parts dans ces pays. Ils sont très puissants. Ils ont des accords avec des villageois, parfois avec plus de 4000 villages. Ils sont ancrés. Pourquoi? Parce que ce sont des Burkinabés, ce sont des Maliens, ce sont des trucs. Il y a des étrangers là-dedans qui viennent du Sahara, il y en a qui viennent même du GIA algérien. Il y en a. Mais la majeure partie, ce sont des Burkinabés, des Maliens et des Nigériens. Qui se sentent lésés ou parfois qui se sentent mal respectés et qui sont tombés dans une idéologie où ils ne devaient pas aller. Il faut parler, mon frère. Il faut parler. C'est la dernière fois, j'étais content parce que j'ai vu le docteur Shogel Meiga, il commence à changer d'avis. Parce qu'il a compris qu'on ne peut... Je ne vais pas dire qu'on ne peut pas vaincre ces gens-là. Il y a des gens qui n'ont plus rien à perdre et qui sont super, hyper armés. Et tous les jours, des gens se radicalisent de plus en plus pour les rejoindre.
Et c'est guidé par qui, ça?
Il y en a, ils prennent de la Libye. Il y en a, ils prennent du Soudan. Il y en a, ils prennent des attaques des casernes même, carrément. Ils font pratiquement tous les 2-3 jours, il y a des attaques. Et puis, il y a un autre pays que nous oublions toujours de parler, parce que nous nous concentrons sur la France, c'est les Émirats Arabes Unis. Il faut faire très attention. Nos États doivent faire très attention. Faire très, très attention.
Donc, comment toi, tu vois le futur?
Moi, déjà, je le vois. Nous sommes tous frères. Avant toute chose, nous sommes frères. Majoritairement, nous sommes des musulmans. Tu sais, les dogons qu'on oppose au peuple, là. Les dogons, le grand cheikh Bokar Salif Tal, quand les peuples même l'ont combattu, c'est les dogons qui l'ont couvert. Ce sont des peuples qui vivent ensemble depuis plus de 2000 ans ou 3000 ans, qui se connaissent parfaitement. Aujourd'hui, j'ai même vu aujourd'hui une conférence de Youssouf Talaba où il parlait un peu. Ce sont des gens qui se connaissent. J'étais vers ta région, le Kédougou. Les Bédik, ils parlent un peu. J'ai vu des Bassari, ils parlent mieux peu que moi. Nous-mêmes, les peuples du Nord, là, on a des problèmes avec les peuples du Massina. Tu sais quoi, c'est une histoire qui remonte à plus de 170 ans, avec les guerres des Lajoumar. Tu sais, ça a fait combien de morts? 70 000 morts. Et Lajoumar, quand il a détruit l'empire du Massina en 1862, 70 000 morts. Nos frères du Massina, jusqu'à aujourd'hui, ils nous en veulent, nous, du Fouta-Toro, du Fulanistan. Il n'y a pas longtemps, Amadou Koufa, il a déclaré que c'est lui qui a fait assassiner le calife descendant de Lajoumar, le calife qui est à Nioro du Sahel.
Ce que j'aime ici, c'est qu'on parle comme ça, bâton rompu avec le cœur surtout. Tu vois, vraiment, et converser avec toi, c'est voilà. Toujours... Voilà.
Moi, je suis là, tu sais,
quelque frère, chose de plaisant.
Voilà. Moi, je suis là pour dire à nos frères ce que je pense être vrai. D'accord? Et je demande à chaque frère de, avant d'accepter ce que j'ai dit, d'accord, de le filtrer à son libre arbitre.
Eh ben, merci pour ça.
D'accord? Ce n'est que ma vérité. D'accord? Personne ne détient la vérité absolue. Mais c'est ce que j'ai observé et c'est ce que je pense être vrai. Il se peut que d'autres personnes aient d'autres lectures. Et je ne leur nie pas cette lecture, d'accord? Mais en tout cas, moi, je vous parle en toute sincérité. C'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai constaté. Voilà.
Déjà, merci pour ces paroles pleines de sagesse, pleines de vérité aussi. Parce que c'est ta vérité.
Voilà, c'est ma vérité. C'est
pas la vérité universelle.
Non. La vérité universelle n'appartient qu'à Dieu.
Absolument, mon frère. Voilà. Et ça, voilà. je trouve ça...
Et toute vérité qui émane d'un homme, elle est toujours incomplète. Donc, ça veut dire, quand je parle comme ça, il y a une partie... Même si c'est vrai, il y a une partie que je n'ai pas pu dire ou que je ne connais pas. Donc, un autre frère viendra compléter. Voilà, c'est très important. Voilà.
En tout cas, déjà, merci pour ta transparence et pour ce partage. Tu sais, moi, j'aime beaucoup la géopolitique, l'histoire. Donc, parler comme ça avec un bro, en faisant abstraction des caméras et des micros, c'est tout ce qu'on aime ici, sincèrement. Mais sujet plus cool, plus léger, les voyages. J'aime beaucoup ça aussi, tu vois. Et toi, quand je te vois à travers tes capsules, etc., tu nous fais voyager. Ouais. Juste après notre dernier échange, notre dernière conversation, t'es parti chez les Balkans.
Ouais.
Tu vois, ouais. Tu vois ce que je veux dire, ouais. T'es parti là-bas déjà. Ouais. Parle-moi de cette expérience, s'il te plaît.
Eh ben, j'étais en Albanie, au Kosovo. Bon. J'étais en Albanie pour deux choses. Parce que j'avais déjà vu un noir américain qui avait dit qu'il n'avait jamais vu de haine anti-noire aussi forte qu'en Albanie, à Tirana. J'étais parti déjà pour vivre ça. Et je peux te dire qu'il n'avait pas très tort.
OK.
Dans la ville de Tirana. Par contre, j'étais agréablement surpris quand j'étais à l'intérieur du pays. La première fois que j'ai fait imam dans une mosquée dans ma vie, aujourd'hui j'ai 50 ans, c'est dans une ville qui s'appelle Berat, en Albanie. On était trois. Les deux, ils disent qu'il... Il y en a un, il fait le miezin, mais il dit qu'il ne sait pas lire le Coran. J'ai dit, mais comment tu fais le miezin, tu ne sais même pas lire le Coran? Je ne sais pas, moi je sais faire qu'Allah, Akbar, Allah. L'autre, il me dit, lui aussi, il est pareil. On n'était que trois. Il me dit, bon, c'est soit tu fais la prière, tu fais l'imam, ou on ferme la mosquée, on s'en va. On ne prie pas. Parce que nous, on ne peut pas faire la prière. Donc, j'ai fait. Donc, la première fois de ma vie que j'ai fait l'imam dans une mosquée, c'est à Berat, en Albanie. Donc, tu vois tout ce que Dieu fait. Mais j'ai rencontré des frères vraiment à l'intérieur du pays d'une générosité extraordinaire. Mais j'étais vraiment surpris par l'honneur est vraiment la gentillesse et la bienveillance des gens du Kosovo. Vraiment, j'étais agréablement surpris. Pour te dire, je suis tombé malade là-bas. C'est très rare que je tombe malade. Je te jure, ils sont venus à l'hôtel me chercher, me soigner. Tous les clients m'ont laissé. Ils ont vu tout de suite que j'étais Renault. Pratiquement, j'étais le Renault, le premier, le seul Renault dans la ville. Ils m'ont soigné. Quand j'ai demandé à payer, ils m'ont dit non, c'est pas la peine. Ils m'ont ramené à l'hôtel. Regarde cette bienveillance. Ils m'ont soigné. Ils m'ont fait les radios. Ils m'ont fait les analyses. Ils m'ont fait passer avant les Kosovars. Je te le jure. Et quand j'ai voulu payer, ils m'ont dit non, non, non. Je demandais combien, ils m'ont dit non. Ils m'ont pris un taxi pour me ramener à l'hôtel. Voilà. Jusqu'à maintenant, j'ai sympathisé avec des frères du Kosovo. On se parle tout le temps. Je te le jure, on se parle tout le temps. Voilà. Des gens de Prizrène, des gens de Gilan, des gens de Pristina. Voilà. Franchement, je suis très heureux d'avoir visité le Kosovo. Voilà. Là, je voulais aller en Bosnie, mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas eu le temps parce que mon emploi, il est un peu. Je dois retourner au pays. Mais vraiment, j'aimerais visiter aussi la Bosnie. Et Inch'Allah, après l'Iran, l'Ouzbékistan. Voilà, ça, ce sont vraiment mes... Sur le monde islamique, voilà, c'est ça qui m'intéresse pour l'instant. Voilà. Après, en Afrique, j'aimerais faire l'Éthiopie. J'aimerais faire surtout Sao Tomé, Principe. Voilà. J'aimerais faire la RDC. Voilà. On ne peut pas, voilà, parce que c'est un pays central en Afrique. Voilà. Voilà. Et voilà. L'Afrique de l'Est, l'Ouest, je t'en parle même pas. J'aimerais faire voilà, la Somalie aussi. L'Afrique de l'Ouest, bon, ça, je ne devais même pas déjà faire. Ça, c'est mon pays, ça. Voilà, du Sénégal jusqu'au Niger, ça, ça n'y a pas besoin que je dise que je vais faire ça. C'est chez moi, ça.
C'est bien que tu aies pu démystifier un peu l'image que certaines personnes avaient, du moins sur le Kosovo et sur les Balkans. Tu vois ce que je veux dire?
Albanie et Kosovo, c'est le même peuple. Mm-hmm. Mais ils sont complètement différents. Le fait que les Albanais soient dans un régime communiste, le Kosovo, il était attaché à la Yougoslavie. Donc, c'est le même peuple, mais qui a eu deux trajectoires différentes. Et le Kosovo, vraiment, tu sens l'amour de l'islam et l'amour de l'autre. Vraiment, je l'ai expérimenté là-bas. Je remercie vraiment le peuple kosovar. Vraiment, je remercie le peuple kosovar. Ils m'ont, voilà. Je remercie aussi les Albanais aussi. Voilà. Mais je te dis, j'ai jamais vu... Voilà. Autant de... Comme à Tirana, je dis, hey, si tu es un Renoir fatigué, ne va pas là-bas.
Non.
Je te jure, j'ai vu une fille. Elle n'a pas pu terminer son voyage. Elle a repris l'avion et elle est partie.
OK.
Tellement, elle a souffert.
D'accord.
Ah, Tirana, ça, c'est la capitale. Hein. Mais les autres villes, ça va. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont à Tirana, la capitale.
D'accord.
Mais j'ai prié dans les mosquées là-bas. Mmh. Dans les mosquées là-bas avec. Et puis surtout, j'ai oublié, j'étais parti voir là-bas, tu sais, je fais toujours des études sur l'islam, il y avait une secte qui s'appelle les Bektachi. Les Bektachi, je suis allé les visiter. Voilà. Ils pratiquent un islam très bizarre, mais bon, tu sais, moi, j'aime toujours les gens qui sont à l'extrême. Donc, j'ai passé une demi-journée avec eux. Voilà. Voilà, j'étais avec les Bektachi. Dédicace à tous les frères Bektachi.
Forcément, étant donné qu'on est férus de voyage, je me devais de te poser toutes ces questions.
Voilà, bouge.
Non, mais en tout cas, c'est excellent et merci pour ce partage parce qu'on en a besoin. Tu vois, tu nous fais du bien, t'es un homme du peuple.
Ouais, bien sûr. J'espère du moins. Je l'espère, cher frère. Je l'espère.
Honnêtement, au nom de toute l'équipe de WeSoul, on te remercie une énième fois pour ta venue. Hein. Sincèrement, pour ce partage, ça nous fait du bien de converser avec toi, frère.
Franchement, comme je te l'ai dit auparavant, voilà, je suis extrêmement heureux de venir ici. Voilà, pratiquement pour moi, c'est un devoir. Voilà, à travers vous, voilà, notre culture est magnifiée. Voilà, je dirais même pas notre culture. Voilà, le combat de notre peuple. Voilà, il progresse. Voilà, j'ai vu, t'as réussi ici, plein de gens, tu vois, d'horizons divers, d'accord. Et ça. Ça montre ton ouverture d'esprit. D'accord. Moi, je ne sais pas si j'avais une émission, est-ce que j'aurais reçu tous ces gens-là. D'accord. Mais ça montre ton ouverture d'esprit. Voilà. Et ton... Même ça veut dire que tu ne partages pas les mêmes idées que tu acceptes. D'accord. Et c'est ça le rôle d'un média. Le rôle d'un média, ce n'est pas de faire la propagande. D'accord. Le rôle d'un véritable média, c'est laisser les gens s'exprimer. Voilà. des opinions diverses, d'accord? Et chacun, Inch'Allah, il finira par trouver, par choisir ce qu'il veut de ses opinions. Donc, merci à toi et merci à tous les frères et tous qui ont acheté mon livre. Vraiment, je vous remercie. Voilà. Tous ceux qui me soutiennent à Dakar, merci. Tous ceux qui me soutiennent ici dans le ghetto français, vraiment, merci, merci, merci. Voilà. Tahia le Grand Sénégal, Tahia Foulanistan. Voilà. Tahia le Grand Sahel, Tahia le Soudan. Voilà.
Et ce sera le mot de la fin 25. Merci sincèrement, mon frère. Hein.
Merci.
C'était le tiers. Et qui est 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects. Mm-hmm. Avec mon rombo et mon pas de frangin. J'ai nommé Guns Poppin.
Yes.
Charles Taylor. Alpha 25.
Voilà.
Pour WSL, mes paroles valtières. Peace.
Voilà, dédicace à mon frère Mystique. Pourquoi que je dis ça? Vraiment, s'il te plaît, garde ça. Dédicace à mon frère Mystique.
We hustle, baby.